Les feuilles de Zo Daxa. Enfant martyr, un biribi pour les gosses. L'autre jour, devant la vitrine d'un pâtissier, un garçonnet chaudement vêtu, auquel sa maman refusait une troisième tarte à la crème, se mit à crier
« Je meurs de faim !»
La foule s'ameuta très vite, et les commères du quartier, trois concierges, deux cuisinières et une marchande de poissons, invectivèrent la maman. Elle l'aurait battue sûrement, si la bonne dame, prise de peur, ne s'était enfin décidée à faire emplette pour le gamin d'une demi-douzaine de gâteaux. L'enfant, sans doute, en fut quitte pour une légère indigestion. Le gosse avait fait chanter sa mère. L'enfant martyr est à la mode. Depuis le petit Pierre et les deux gosses, la fibre populaire tressaille. Et un papa assez osé pour tirer l'oreille d'un marmot et dénoncer par son pipelet. La moindre pitchenette au bambin émeut les voisins, belles âmes qui croient de leur devoir civique d'écrire des lettres au commissaire. Un usage enraciné veut, d'ailleurs, que toutes ces lettres, des voisins comme des concierges, soient prudemment anonymes. Il y a ainsi de basses vengeances qui trouvent moyen de s'exercer. Il y a surtout la délation, qui est un plaisir bourgeois. Les loupiots qui, avant de lire les journaux, les ont entendus annonner et commenter en famille, ont appris, par les faits divers, que, contre tout méchant traitement, la société les protégeait. La société ! Des grandes personnes qui ont le droit de punir maman et de mettre papa en pénitence. La société ! S'ils savaient. Eh bien, nous allons le dire, le montrer à tous, petits et grands, ce qu'elle fait la société, la paternelle société, des enfants qu'elle prend en tutelle. Voici la maison de correction. Ici l'on souffre, on saigne, on jeûne. Ici l'on tue. C'est à Anian. Citons des noms, citons des faits. Il faut qu'un de ces biribis, lugubres autant que ceux d'Afrique, plus poignants peut-être, puisqu'on y tenaille de la chair encore puérile, apparaissent dans son jour sinistre. C'est autre chose qu'un article à faire, et c'est mieux qu'un réquisitoire. Ce devrait être un procès-verbal. Anian, colonie pénitentiaire. Directeur, M. Naret. Médecin, M. Rouvérolis. 400 colons. Les plus jeunes ont à peine 8 ans. Cette colonie n'est pas, au reste, pire que les autres. Saint-Hilaire, Douaire, La Loge, sévissent sur le même modèle. Mais c'est d'Anian que je peux parler, en mettant les points sur les i, en mettant les noms sur les morts. Il s'appelait Weyenberg, celui-ci. Il avait 17 ans, jeté en cellule pour une tentative d'évasion. L'enfant tomba sous la coupe d'un gardien qu'il avait en haine. Ce gardien, ce fonctionnaire, ce tortionnaire nommé Périal, poussa l'ignominie au point de priver sa victime de la portion de nourriture accordée aux enfants punis. Une soupe, tous les 4 jours. Périal vida dans les latrines la gamelle du petit martyr. Pendant 3 semaines, le malheureux vécut au régime d'une mince tartine de pain que, chaque jour, on lui lançait. Et des cellules voisines, ses petits camarades l'entendirent de longues nuits sangloter en demandant à manger. « par pitié, j'ai faim !» Le matin du 21e jour, on le trouva mort dans sa cellule, avec, aux dents, des débris de plâtre que l'enfant avait mâchonnés. Mais ce n'est là qu'un assassinat dont le directeur, je dois le reconnaître, se montra lui-même affecté. M. Naret blâma le gardien. Il n'y eut pas, toutefois, d'enquête. Ce blâme directorial, ce blâme public d'un gardien devant les enfants assemblés, était d'ailleurs sans précédent dans les annales de la colonie. Le scandale n'alla pas plus loin. Par exemple, ce que M. Naret, d'accord avec le règlement, n'appelle pas un scandale, trouve naturel et congru. C'est le régime cellulaire appliqué selon le tarif. Une soupe tous les 4 jours, nous l'avons dit, plus une demi-boule de son, chaque matin, 500 grammes de pain, son et paille. Tel est l'ordinaire fixé pour les jeunes colons, punis. Et notez que les petits êtres que l'on soumet à ce régime ont été punis le plus souvent pour des fautes dans le genre de celle-ci. Ils ont causé pendant le travail. Ils ont ri pendant le repos. Ils ont ri. Pauvres gamins de nos rues, qui couraient l'école buissonnière, jeunes vagabonds sans famille, qu'arrêta le sergot un soir, et que, le lendemain, un magistrat dépêcha sur la colonie pour y attendre leurs 20 ans. Ils ont ri. Peut-être bien était-ce dans les premiers jours de leur incarcération, étonnés, presque inconscients, ne se rendant pas compte encore, amusés de la mascarade qui, tout à coup, les défigure. Dès leur arrivée, en effet, on les affuble d'un costume fabriqué de pièces en 2 couleurs. Une manche. Un côté de la veste est bleu, l'autre côté blanc. De même pour le pantalon. Une jambe est blanche, l'autre est bleue. Puis le perruquier s'empare d'eux et s'occupe de leur coiffure. Une raie d'abord, au milieu. Le rasoir fait tomber ensuite la moitié de la chevelure. À droite, le crâne apparaît comme affligé de pelade, tandis que des mèches insoumises se dressent sur le côté gauche. Et les petits s'en vont ainsi, matriculés et flétris. Ils vont, blancs et bleus, chauves à demi, tels que des arlequins lépreux, des pauvres pantins disloqués. Ils vont vers les ateliers, où ce sera les travaux forcés. Charrons, menuisiers, ferblantiers, les enfants besognent dès le petit jour, sous les ordres d'une équipe de brutes qui les harcèlent et les bâtonnent. Comme repos, ou plutôt en guise d'éducation morale, on leur fait une fois la semaine faire l'exercice du fusil. On leur apprend aussi la boxe. Les enfants qui sont maladroits, durant les leçons d'ensemble, se perfectionnent en cellules où les gardiens ne manquent jamais de leur infliger, boxe et chaussons, quelques leçons particulières. Coups de poing, coups de pied, toutes les formes connues de passage à tabac avec quelques raffinements, sont l'habituelle distraction de cette chiourme désœuvrée, atteinte de délire sadique. Au mois d'août de cette année, le jeune tissier était en cellule depuis 8 jours lorsque le perruquier, accompagné d'un gardien, vint pour le raser à l'ordonnance. Le pauvre petit avait été, au cours de la semaine, si bien traité qu'il avait des trous dans la tête. Le savon du perruquier, mordant le crâne mis à vif, causait si cruelle douleur que l'enfant ne retenait plus ses cris. C'est alors que, pour le faire taire, le surveillant Berlingui, pendant qu'on rasait Tissier, se mit à le frapper, sous le menton, avec la boîte à rasoir. Le patient eut un sursaut, et le rasoir du perruquier taillada dans le cuir chevelu. Je pourrais narrer encore maintes édifiantes anecdotes qui datent d'hier et de là-bas. Serait-elle capable d'émouvoir les singuliers amateurs pour lesquels les quotidiens maintiennent et truquent en permanence la rubrique des enfants martyrs? Je ne sais. Certains publics ne vibrent qu'au roman feuilleton. Le strict exposé des faits ne sollicite que rarement ces troubles sensibleries. Ceux qu'on appelle les honnêtes gens n'aiment pas voir mettre en cause cette mégère, la société. Et c'est elle que je traîne ici. Ce n'est plus un cas spécial, grossi par la malveillance et exploité par la presse, comme l'aventure récente de ce ménage sans travail qui nourrissait mal sa nichée, et que les bourgeois de l'entresol accusèrent d'être des bourreaux. C'est la loi, l'administration, responsable dès l'origine. C'est l'État, premier coupable de ce qui se passe dans ces geôles, dans ces maisons de correction, ces colonies pénitentiaires, conservatoires d'enfants flétris, pépinières de petits martyrs. J'y reviendrai s'il le faut, si l'on ne fait rien pour ces petits, si l'on tarde à vérifier l'exactitude des renseignements puisés aux sources sanglantes. L'effet fourmi, tragique. Poussés à bout, des enfants tentent de se pendre ou de se noyer. Frileux, un garçon de 13 ans a le bras cassé d'un coup de bâton par le surveillant Dumas. Le jeune Raymond meurt d'épuisement à peine sorti de cellule. En 7 minutes, dans les cachots, d'autres enfants crient « Au secours !» Pour tout motif, il n'importe, les petits ont été punis. Ils n'iront pas à l'atelier, ils ne coucheront plus au dortoir. Et cela durera des semaines, selon le tarif et la règle. Nu-pied, dans la cellule humide, l'enfant, les 8 premiers jours, a les bras liés derrière le dos. Des menottes lui serrent les poignets. 8 jours, sans trêve, sans répit, sans qu'on le détache un moment. Mais comprend-on? Mais sait-on lire? Sait-on sentir? Veut-on penser? Je dis 8 jours, je dis 8 nuits, les bras rejetés en arrière, maintenus par la chaînette froide. Allons, les mains derrière le dos, essaye 1 minute, lecteur. Sors la poitrine, efface l'épaule. Les feuilles, Zodaxa. Au biribi des gosses, une lettre. J'ai dit qu'à la colonie pénitentiaire d'Anian, par le bâton et par la faim, on fait mourir des enfants. On me répond que ces enfants ne sont pas vêtus comme je l'indique. L'odieuse livrée bicolore, bleue d'un côté, blanche de l'autre, la tonsure d'un côté de la tête, sont exceptionnelles seulement. C'est l'administration qui le prétend. On ne rase que les fortes têtes. On ne déguise en arlequin, on ne marque, on avilit que les plus indisciplinés, ceux qui s'évadent ou qu'on suppose avoir l'intention de s'évader. Combien sont-ils donc ceux-là qu'une pensée d'évasion travaille? Combien sont-ils qui, las de souffrir, rêvent de s'enfuir par les routes? Loin de la geôle où l'on prive de pain, loin des cellules où les menottes, jours et nuits, tenaillent la chair. Un seul jour, ils partirent 18. Une autre fois, 150 tentèrent de gagner l'air libre. Weyenberg, dont j'ai dit la mort, on me reproche d'avoir mal orthographié son nom, n'aurait pas été un matin trouvé roide dans sa cellule, avec, aux dents, des débris de plâtre mâchonnés pour tromper la faim. Nous rectifions. C'est du chlore qu'afin de mourir, le pauvre gosse avait absorbé. Le chlore qu'au fond du baquet, on met comme désinfectant. À cela près, tout est exact. Les coups de pied, les coups de bâton, face meurtrie et bras cassés. En vain l'administration essaie de se disculper. On ne peut plus nier que les enfants punis n'aient qu'une soupe tous les 4 jours. Il faudra reconnaître que ces petits, la chevelure à moitié rasée, les mains liées derrière le dos, défilent une honteuse parade devant leurs camarades réunis. Affublés du costume grotesque, pieds nus dans les gros sabots, ils vont, le pas incertain. Souvent le poing d'un gardien précipite leur marche indécise. Ils trébuchent, se redressent, ils passent les petits-enfants dégradés. Et les autres, les camarades, fixent dans leur rang, les yeux rouges, se disent « Les reverrons-nous ?» À l'heure où paraissent ces lignes, un député, M. Fournière, apporte devant la chambre l'ensemble des faits et des preuves. Parmi les pièces à conviction, il y a des lettres de détenus. Il y en a même de gardiens. Les témoins ne sont pas anonymes. Sans doute Fournière lira cette lettre que je publie, telle qu'elle, ici. Elle émane d'un jeune colon, rendu à la vie depuis peu, et qu'hier je ne connaissais pas. avec 10 autres, aujourd'hui. L'enfant est prêt à parler. Paris, le 23 novembre. Monsieur, j'ai lu la feuille, intitulée « L'enfant martyr », dans laquelle vous dévoilez sous les yeux du public les abominables tortures que les enfants subissent à Anyan. Eh bien, ce que vous racontez est véridique, puisqu'à l'époque où se passaient toutes ces infamies, j'étais encore le pensionnaire du cruel bourreau qui dirige ce lieu de torture. J'ai connu toutes les victimes dont parle votre feuille, et particulièrement Tissier. Je peux vous affirmer que les gardiens, notamment Berlinguet, l'ont frappé jusqu'à ce qu'il tombe, et une fois par terre, il s'acharnait encore sur lui. Tenez, moi qui justifie les faits que vous avez la franchise de dévoiler, je vais vous en raconter un qui, rien que d'y penser, fait frémir d'horreur. Le 1er novembre 1897, un jeune pupille, ayant à se plaindre de la sévérité des surveillants à son égard, résolut d'en finir avec ses souffrances. Le soir du même jour, nous nous trouvions tous réunis sur la cour, quand tout à coup, le bruit d'un corps tombant dans l'eau se fit entendre, car il y a un énorme bassin dans la cour. Il y eut parmi nous une minute d'angoisse, et comme je me trouvais là, je m'élance avec plusieurs de mes camarades pour retirer notre ami Lénaine. C'était le nom du désespéré. Enfin, nous parvenons à le retirer. Inutile de vous dire que pendant ce temps, aucun des gardiens n'est accouru pour lui porter secours. Au contraire, ils riaient, tous, comme des fous. Une fois sorti de l'eau, Lénaine en avait tellement absorbé qu'il avait perdu connaissance. Quand survint le farouche Berlinguet qui, prenant Lénaine par une jambe, le traîna à la salle de police, arrivé là, lui donnant un formidable coup de pied dans les reins, le livra au gardien chargé de l'exécution de cette torture. Tout ça s'était passé devant les yeux de 400 enfants qui, devant ces actes de brutalité inouïs, laissèrent échapper un murmure d'indignation. Moi, pour ma part, les larmes me coulaient des yeux. Devant de tels faits, nous étions unanimes à nous révolter, si bien que le lendemain, 18 enfants, parmi lesquels je faisais partie, s'évadaient de la colonie dans l'intention d'aller déposer une plainte à Montpellier. Mais nous n'eûmes pas la chance d'aller jusque-là. Les gendarmes, lancés à notre poursuite, nous arrêtèrent à 7 ou 8 kilomètres de la colonie. Là, revolvers au poing, ils nous sommèrent de nous rendre. Nous leur répondîmes plutôt mourir sur place que d'être reconduits à la colonie. Et plusieurs d'entre nous découvraient notre poitrine en leur criant « Tirez donc ! Nous préférons la mort que de souffrir à la colonie !» Voyant nos énergiques résolutions, le brigadier nous prit par la douceur et, usant d'un stratagème hypocrite, parvint à nous persuader qu'en nous rendant à la gendarmerie, nous serions de suite dirigés sur Montpellier. Bref, après des pourparlers avec le directeur de la colonie, le brigadier résolut de nous reconduire à la colonie. Ceci avait duré 2 jours, pendant lesquels nous n'avions rien mangé. Bref, on nous passe les menottes et on nous enchaîne de telle façon tous ensemble comme un paquet de saucissons, que nous ne pouvions pas marcher. Force leur fut d'amener des voitures pour nous reconduire à la colonie. Enfin, arrivés à destination, nous ont rasé la tête et en route pour le cachot, où 4 d'entre nous furent punis à 60 jours, d'autres à 90 jours, et enfin 4, et j'étais de ces 4-là, furent punis à 120 jours. Inutile de vous dire que dès les premiers jours de notre punition, la plupart de nous étaient malades. On leur donnait un matelas. Ils restaient couchés dans sa cellule. Vous ne vous figurerez jamais les tortures, les privations, les vexations que nous avons subies pendant notre séjour au cachot. Surtout quand le surveillant Calverac était de service pour nous garder. Ce terrible garde-chiourme, la terreur des petits-enfants, car ils ne s'en prenaient qu'aux petits, était redouté de la population où il ne commettait que des injustices. Excusez-moi, monsieur, si je vous retiens si longtemps dans ce chapitre, mais je vous assure que ça vaut la peine de s'occuper de ces pauvres martyrs qui encore, à l'heure actuelle, gémissent sous le poids des bâtons, des coups de poing. Pour plus ample renseignement, je vous prie de vous adresser à moi, soit par lettre ou verbalement, car je suis à votre disposition. Nom et adresse. On n'étouffera plus les voix. Agnan ne saurait être défendu que par l'administration et les reporters à sa solde. Sous les dénégations attendues causera le président du conseil, déjà perceront des aveux. De partout les faits se confirment. Suspectant l'enquête officielle, des journaux voulurent s'informer. On est allé à Agnan. Il faut lire la fronde d'hier. Le biribi des gosses, désormais, ne pourra subsister que grâce à la complicité avérée du gouvernement. Et c'est alors, j'imagine, que les ligues fondées récemment pour défendre les droits de l'homme penseront à ceux de l'enfant. Ma tâche s'arrête ainsi. Mais faut-il encore qu'on sache que je n'ai choisi Agnan que comme exemple et pour violer, en précisant, l'indifférence coutumière. Avis aux parlementaires qui seront désignés sans doute pour l'enterrement des contre-enquêtes. Ce qui se passe à Agnan se passe ailleurs. Cherchez, messieurs, allez à S, à Saint-Hilaire, demandez qu'on vous montre les poussettes. Tout un régime est en jeu. Rien n'est changé depuis Porquerolles. Rien ne sera changé vraiment tant que les enfants, coupables surtout de misère, seront jetés dans ces geôles. Et que pourrait-on même changer ? La société bâtie à chaud et à sable, sang et larmes, s'érige sur ses prisons. On n'en modifie que le style. Il faudrait comprendre et agir, marcher vers la liberté, ouvrir la cage aux enfants, donner la béquée aux petits. On leur donne le bagne à 8 ans. Le vieux monde croulera d'un seul coup. Où que l'on projette une lumière, il y a de la honte et du sang. C'est la caserne et c'est la geôle, c'est l'atelier, c'est l'usine, des balles pour les jeunes soldats, le joug de la misère pour le peuple, la torture pour les petits des hommes. On s'occupe d'Agnan. Passons. Demain, nous parlerons d'autre chose. Note de l'éditeur. Afin de donner quelques idées de l'intense émotion qui fit écho à ces révélations tragiques, il suffira de citer ce début d'un article de Gustave Geoffroy. Ce doux nom d'Agnan. Zodaxa l'a biffé de sa plume énergique. Il en a fait le biribi des gosses. L'affreuse enseigne est désormais clouée au fronton de la colonie pénitentiaire. C'est dans la feuille, si bien nommée, qui s'envole par les rues, qui peut s'en aller aussi par les routes, si le bon vent s'élève, que le libre journaliste, si bien défini par Clémenceau comme un mousquetaire chercheur de justes aventures, a écrit son exposé. Stélène et Luce l'ont illustré, ont mis l'image à côté des mots. La question est maintenant fixée. Il y a un peu plus d'indignation et d'apitoiement dans le monde. Reprenons le récit qui a fait du chemin en 15 jours, qui a couru la presse de Paris, de la France, du monde entier, qui a occupé hier la séance de la Chambre, qui est à l'officiel ce matin. Et de fait, l'auteur, qui volontairement ne s'attarde à rien, fit en passant œuvre de partielle, mais immédiate, réforme sociale. L'opinion qu'il avait lancée accula le ministère aux actes et le força de décréter d'urgentes abolitions. Quelques instruments de torture furent à jamais remisés.